Terre à Terre, le magazine de l'environnement. Ce matin, en Aveyron, le vent n'est pas à la fête. Victor et Victoria Souza, est-ce que vous avez commencé à vivre en collectif avant les ZAD ou est-ce que ce sont l'expérience des ZAD qui vous ont incité à ça?
Bon alors, en ce qui me concerne, ça fait déjà pas mal d'années, peut-être 10 ans que je vis en collectif sous différentes formes, que ce soit de la colocation ou des communautés plus liées par quelque chose de politique. Mais ce qui est peut-être marquant avec l'arrivée de ce terme ZAD et de ce mouvement ZAD dans nos vies depuis, allez, on peut dire depuis 2012, puisque c'est là qu'il a commencé à devenir vraiment célèbre. Ce qui est marquant avec ce terme ZAD, c'est que le fait d'habiter collectivement un territoire est devenu une question qu'on a pu partager avec tout un tas de monde, à la fois dans cette ville de Sainte-Afrique, mais plus largement sur tout le département de l'Aveyron.
Habiter un territoire, comme vous dites, c'était déjà quelque chose qui était important pour votre groupe.
C'était déjà des questions qu'on se posait, mais sous cette forme-là, sous cette forme aussi partagée, sous le fait de pouvoir discuter avec la première personne que l'on croise dans la rue et dire « Ah ben, qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes ?» Ben, ah oui, ça c'est des gens qui ont une vision du vivre ensemble, une vision du commun, qui peut être mise sur la place publique et débattue. Et on est d'accord, on n'est pas d'accord, telle forme nous va pas. Mais ce n'est plus quelque chose de tabou, enfin, ou de relégué dans les mairies. Et on peut débattre d'autres manières de s'organiser enfin, sur un territoire. Voilà.
Victoria Souza ?
Oui, peut-être aussi, il y a quelque chose là-dedans qui est intéressant et qui participe d'un élargissement du collectif. Habiter le territoire, on l'a toujours, nous ici, en tout cas, pensé comme quelque chose qui ne concerne pas notre collectif, mais qui concerne de nombreuses personnes, c'est-à-dire c'est pas nous 10 ou 15 et puis le monde autour, mais plutôt comment on va les frontières entre ce qui pourrait être un groupe et les bourgs alentours et toute la région, elles tendent à devenir complètement floues. Et les comités ZAD ont permis ça, c'est-à-dire de trouver une force politique qui soit beaucoup plus large que le groupe qu'on était et que le groupe qu'on était se dilue dedans. Ne dilue pas sa force, mais au contraire, ça, c'est plutôt exponentiel, quoi, la multiplie dans cet élargissement. Quoi.
Alors on va revenir évidemment sur cet élargissement, mais peut-être pourriez-vous vous présenter brièvement, c'est-à-dire déjà dire où nous sommes. On est en Aveyron. Et cette question, cette notion du territoire, pour vous, elle a un sens bien précis qu'on ne retrouve pas nécessairement aussi élaboré, aussi réfléchi dans les autres comités, me semble-t-il. Victor.
Alors, on est en Aveyron et on est à Sainte-Afrique, c'est-à-dire c'est entre Millau et Albi. On n'est pas loin du Larzac non plus, et de son héritage politique en termes de lutte territoriale, justement. Donc on est aussi dans le territoire linguistique de l'Occitan, qui n'est pas seulement un territoire linguistique, qui a son histoire propre, une histoire qui est faite de nombreuses révoltes, de celle des croquants, en passant par les camisards. Enfin, tout un tas d'imaginaires comme ça, qu'on amène à chaque fois que des gens se ressaisissent de leur destin et de la manière dont ils ont envie de vivre ici, qui ressurgit et qui nous enrichit, en fait, qui donne des formes, qui donne des manières de lutter, qui sont beaucoup plus riches que celles qu'on peut voir, je ne sais pas, dans les formes politiques classiques. J'entends par là à la fois des chants, à la fois des manières de faire, je ne sais pas, des...
Victoria Souza ?
Par exemple, les manières qu'on a eues avec le comité ZAD du Sud Aveyron, de monter à Notre-Dame-des-Landes, ça a été... Alors je ne sais pas si c'est particulier à ici, ou c'est difficile à dire... Mais en tout cas, ça a toujours été très joyeux et ponctué d'une espèce de créativité, notamment au travers des chansons, où à chaque fois qu'on y a été, on avait écrit des chansons, alors bon, sur des airs connus, mais en tout cas, qu'on avait composé plus ou moins tous ensemble, qu'on a composé aussi en même temps, qu'on montait en camion, quand on tombait en panne, et ben une heure après, la panne, elle était racontée dans une chanson, etc. Avec, dans ces chansons, bien sûr, la langue qui était présente à des moments.
La langue, c'est-à-dire l'occitan ?
L'occitan, voilà. Rares parmi nous sont ceux qui maîtrisent l'occitan. Mais par contre, le comprennent un peu ou sont en mesure de répéter un refrain. Et c'est aussi par là que cette culture-là et la langue qu'il véhicule, c'est-à-dire par les chants, arrive à nous traverser, à nous imprégner, à moi par exemple qui ne suis pas d'ici.
Mais oui, mais alors quand vous arrivez à Notre-Dame-des-Landes, personne ne vous comprend si vous chantez
Ben justement, si, parce que les chansons qu'on a, d'abord en général il n'y a que 2-3 phrases en occitan et puis le reste est en français. Et même quand toute la chanson est en occitan, comme c'est le cas de certains chants, pas qu'on a écrit mais qu'on reprend de groupes du coin, quoi. On essaye de l'expliquer aux gens. Bon, en plus, c'est quand même une langue assez proche, qu'on comprend assez aisément. Et puis, il n'y a pas que les paroles dans une chanson. Il y a aussi la musique et tout ce qui transparaît avec ça. Et puis, une ambiance que nous, on essaye d'amener avec nous. C'est-à-dire pas monter pour défendre seulement une idée. C'est-à-dire, il n'y aura pas d'aéroport. Évidemment, il y a ça. Mais aussi, amener quelque chose là-bas qui serait quelque chose de nous pour et aussi recevoir en échange quelque chose des autres et la pomme de l'imaginaire. Donc ce qu'on a fait quand on est monté la ZAD cet été, ça a été exactement cette démarche, c'est-à-dire que la pomme ici, c'est alors j'allais dire une cérémonie, mais non, un rite plutôt, qui se passe soit la veille soit le lendemain de la fête du village. Et en général les jeunes vont quêter dans chaque maison, donnent une cigarette, un bouquet de fleurs, chantent des chansons et les gens donnent des sous pour le comité des fêtes afin de faire la fête de l'année prochaine. Et donc on s'est inspiré de ce rite-là qui n'est pas un rite perdu, hein, qui se fait vraiment...
En Aveyron.
En Aveyron, oui, qui se fait, mais pas qu'en Aveyron. Par exemple, en Bretagne, ils appellent ça les aubades, je crois. Et donc on s'est inspiré de ça parce qu'on a connu ça, voilà. Mais on y a ajouté autre chose. Du coup... On est parti à la ZAD pour planter le décor. On a fabriqué un chariot avec un vieux berceau, avec une grande table qui s'ouvrait avec un couvercle en forme d'Aveyron. Voilà tout ça. On a pris des spécialités locales, on va dire, notamment alcoolisées. Et on passait comme ça de cabane en cabane pour quêter des histoires et des chants qu'on a enregistrés. On espère qu'un jour on arrivera à en faire quelque chose. Et donc, nous, on avait nos chansons qu'on chantait aux gens en arrivant dans les cabanes. Et eux, voilà, on leur servait à boire, on leur offrait du fromage. Et on leur demandait de nous raconter une histoire ou de nous chanter une chanson. Au début, on s'est dit, il va y avoir des ratés, quoi, il va y avoir des bides. Et en fait, jamais, jamais il y a eu de bides.
Vous avez toujours trouvé des chansons ou des histoires ?
À chaque fois, tout le monde. Et nous, on a trouvé ça assez extraordinaire, en tout cas.
Victor Souza ?
Là, c'est une dimension très, très intéressante. C'est-à-dire que la rencontre avec un espace, par exemple, comme la ZAD, nous, on y était allés quand même plusieurs fois auparavant. Et à chaque fois, on passait dans les cabanes, on rencontrait les gens, bonjour, au revoir, on se disait des banalités. Mais cette fois-là, en arrivant et en apportant notre culture, en apportant quelque chose qui nous représentait, qui nous avait vraiment touché, qui était, je sais pas, comme... un cadeau d'une part de nous-mêmes qu'on apportait à ces habitants de la ZAD, eh ben, eux, en retour, étaient en mesure de nous donner énormément. Et vraiment des histoires d'une grande qualité, des chansons d'une grande qualité. Et tout ce recueil-là fait un fond vraiment formidable.
Qu'est-ce que vous en avez fait de ces chansons et de ces histoires ? Vous les avez enregistrées ?
On les a enregistrées, alors, notamment dans l'idée de faire une émission de radio, parce qu'ici, il y a une petite radio associative qui s'appelle Radio Saint-Aff. Et bon, pour l'instant, on en est encore au dépouillement parce que c'est pas exactement notre métier, mais on a, voilà, des amis qui sont bénévoles dans cette radio qui y travaillent. Mais il y a des heures et des heures de chants, dont la plupart sont des chants, voilà, complètement inventés et qui parlent de la ZAD de Notre-Dame.
Ah, qui sont des chants contemporains. Moi, j'étais en train de m'imaginer des vieilles chansons bretonnes, alsaciennes, que sais-je.
Non, non, c'est des chants contemporains. Nous, on leur demandait, voilà, une chanson sur la ZAD. Après, ceux qui n'avaient pas de chanson sur la ZAD nous ont chanté des chansons sur autre chose, mais des chansons originales, quoi. Et donc, c'est soit des reprises de chansons connues dont les paroles ont été changées, puis on a même eu des créations originales.
Et ça, c'est vraiment impressionnant, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que l'inspiration, c'est un peu tarie et que les gens sont un petit peu assommés par le flot musical... permanent qui existe dans les magasins, dans les restaurants, dans les ascenseurs.
Ce qui manque surtout, c'est des occasions de chanter la culture, les chants. Souvent, ils existent. Il y a plein de gens qui en écrivent collectivement ou tout seul. Mais les occasions de chanter, c'est quelque chose de très rare, par exemple. Et là où la pomme de l'imaginaire a vraiment parfaitement fonctionné, c'est qu'à la fin de notre séjour, elle a duré 3 jours, donc elle est allée à l'ouest de la ZAD, à l'est de la ZAD, au centre de la ZAD. Elle a été compliquée physiquement par le degré d'alcool qui a été maintenu durant les 3 jours. Mais là où la pomme a véritablement fonctionné, c'est qu'à la fin de ces 3 jours-là, il y avait un énorme festival de la SIPA, où il y avait les Têtes Raides, je ne sais pas, des groupes relativement connus. Et en marge des concerts, il y avait un stand, tout un tas de stands avec de la nourriture. Et derrière ces stands-là, des gens qui avaient croisé la pomme se sont mis à reprendre les chansons qu'ils avaient déballées lors de la pomme. Et en les déballant, des passants de la ZAD, qui avaient eux aussi accueilli la pomme dans leur cabane, se sont joints à eux. Et la soirée a duré jusqu'à 4h du matin, avec chacun rajoutant une chanson, une chanson, une chanson. Et c'est là que la pomme avait véritablement fonctionné, c'est-à-dire qu'elle avait redonné l'envie de chanter, de s'exprimer et de créer des chansons au sein de la ZAD.
Alors ça, c'est l'échange que vous pouvez faire avec les autres collectifs, les autres groupes, dans ce réseau qui s'est vraiment constitué en très peu de temps, en quelques mois, quelques années à peine. Si on revient maintenant sur votre territoire, puisque vous avez démarré, Victor Souza, en parlant d'habiter le territoire, comment est-ce que cette créativité, cette forme de collectage vous permet, ou pas d'ailleurs, de tisser des liens à l'intérieur de votre territoire, Victoria Souza?
Disons que chercher des occasions, comme Victor vient de dire, pour pouvoir se raconter ses histoires, ou pour pouvoir se chanter ses chansons, c'est pas quelque chose qui est donné, c'est pas quelque chose qui est évident. Puisqu'en général, quand on fait la fête, on met de la musique, elle est trop forte, on s'ennuie, etc. Quoi, samedi soir sur la terre. Hein. Du coup, c'est plutôt en termes d'une recherche au quotidien et de quelque chose qui parfois peut paraître un peu fabriqué ou un peu poussif et qui pourtant nous tient à cœur. Alors des fois ça rate, on fait des soirées ratées. Mais pour...
C'est-à-dire que vous organisez, vous créez de toutes pièces des occasions.
Il y a une anecdote qui est assez parlante, c'est que un 18 juillet de l'année, alors je crois que c'est l'année 2013, on a eu un ministre de l'Agriculture qui est venu sur le Larzac pour proroger le bail de la SCTL. La SCTL, c'est la Société Civile des Terres du Larzac, qui est la société civile qui gère les terres qui avaient été achetées pour réaliser l'extension du camp, et le camp, l'extension du camp abandonné, ont dû trouver une forme légale pour continuer à être géré. Et donc la SCTL se charge de ça. Monsieur Le Foll, le ministre de l'Agriculture, est venu sur le plateau du Larzac, accueilli par son copain José Bové, pour proroger ce bail de 39 ans. Il s'avère que les comités ZAD appelèrent à ce moment-là à une manifestation contre Monsieur Le Foll, non pas pour l'empêcher de signer le bail de la SCTL, mais plutôt pour l'empêcher de sortir du Larzac avant qu'il n'ait fait une déclaration en faveur de Notre-Dame-des-Landes, à savoir l'arrêt du projet d'aéroport. Donc, je vous passe les détails, mais Monsieur Le Foll s'engouffre dans une impasse, l'impasse des bombes, et la manifestation appelée par les comités ZAD arrive à investir le bitume de cette petite rue qui se dirige vers les bombes et à barricader la ruelle. Scène burlesque, Monsieur Le Foll est obligé de s'enfuir par des petits chemins boueux pour rejoindre une autre voiture qui était garée un peu plus loin et par une petite promenade dans les bois pour rejoindre Mio. Suite à cet événement-là, ce qui s'est produit, c'est qu'une chanson sur l'air qui s'appelle « Au 18 du mois de juillet » a été créée, inventée, et qui raconte toutes ces péripéties. Et cette chanson est très régulièrement chantée dans toutes les manifestations qu'on peut avoir à Millau, à Sainte-Afrique ou à Rhodes.
Au 18 du mois de juillet, avons vu venir dans notre contrée. Au 18 du mois de juillet, avons vu venir dans notre contrée un ministre de l'Agriculture qui venait pour se paramer, serrer la main à quelques enflures. Serrer la main à quelques enflures. Dans une impasse s'est engouffré, tout alentour étions cachés. Dans une impasse s'est engouffré, tout alentour étions cachés. Attendant à son insu qu'il passe, pour se rendre maître de l'impasse, et en bloquer l'unique issue.
Et en bloquer l'unique issue.
Une fois le bitume investi, barricadons toute la voirie. Une fois le bitume investi, barricadons toute la voirie.
Contre la caverne, roulent les rochers.
serait pas lève, mon très chevron, tout le bitume est obstrué.
Tout le bitume est obstrué.
Monsieur le ministre, pour s'en sortir, il est préférable de s'enfuir.
Monsieur le ministre, pour s'en sortir, il est préférable de s'enfuir.
Il y a un passage dans le bois, ça n'arrangera pas votre costard. Mais vous serez pas trop en retard.
Mais vous serez pas trop en retard.
Que va-t-on dire de lui bientôt à Matignon et à Millau? Que va-t-on dire de lui bientôt à Matignon et à Millau? Lui qui venait faire le ronflant avec son bal de 39 ans, il est parti comme un coup de vent.
Oui, mais alors, quand vous chantez dans des manifestations, d'une certaine manière, vous êtes toujours entre vous. Moi, la question que je me posais et que je vous posais, c'est quel lien est-ce que vous tissez avec les habitants du territoire, bah, par exemple avec ceux plus âgés qui ont parlé, parlent encore occitan, pour vous j'imagine que c'est une langue apprise et non pas une langue d'enfance. Quelle relation avec vos voisins, ceux qui ne vivent pas nécessairement en collectif, qui ne sont pas nécessairement hostiles à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, Victor Souza?
Oui, je crois que c'est justement quelque chose qui les touche. Quand un grand-père du fin fond de l'Aveyron entend la langue que lui parlait quand il était petit et qui a été pendant des siècles maintenant dévalorisée, exterminée de ce territoire, ça le touche de voir que les jeunes, quand ils ont envie de se révolter ou quand ils ont envie d'imaginer un monde qui soit différent de celui d'aujourd'hui, ils se retournent vers ce qu'on peut appeler la tradition. Parce que un des grands problèmes de ce mot de tradition, c'est qu'on le voit toujours comme quelque chose de figé, de mis dans un carcan et qu'il faudrait répéter à l'infini de la même manière. Alors qu'au contraire, la tradition, c'est tout l'inverse de ça. La tradition, c'est quelque chose qui demande à chaque instant d'être réinventé. Et nous, c'est de cette manière-là qu'on l'apprend. Et évidemment que l'Occitan qu'on parle aujourd'hui n'est pas le même Occitan que celui qu'on parlait il y a 100 ans. Évidemment que les choses qu'on va dire avec cet Occitan-là ne sont pas les mêmes que les choses qu'on aurait pu dire il y a 100 ans. Et tant mieux, d'une certaine manière, puisque comme c'est une langue interdite ou exilée, en tout cas, l'intérêt de la refaire surgir aujourd'hui, c'est justement de lui faire dire des choses qu'on ne peut pas dire dans cette réalité avec le français.
Et ça, c'est vraiment intéressant, parce qu'effectivement, vous parliez tout à l'heure de la richesse que ça a apporté dans vos manières de lutter, et de fait, tout ce qui était du ressort de la tradition pendant assez longtemps est apparu comme quelque chose justement de très conservateur, d'opposé à tout ce qui pouvait être une volonté de transformer la société, le système. Et là, l'opposition que vous faites, c'est entre tradition et muséification. Victoria Souza?
Peut-être qu'on peut mettre plusieurs frontières. Évidemment, il y a entre le folklore et ce que nous, on a envie d'appeler la tradition. Et typiquement, le folklore, c'est ce qui est mort. Et peut-être, d'un point de vue éthique ou politique, le fait de voir ce qui est là, de voir ce qui est vivant, et pas forcément ce qui est encore vivant, entre guillemets, mais ce qui est là, c'est un positionnement qui, pour nous, déjà relève d'une certaine manière, d'un point de vue révolutionnaire, puisque d'emblée, on a tendance à voir tout ce qui relève peut-être d'une identité occitane ou de quelque chose comme une culture, comme soit quelque chose qui ne nous appartient plus, mais qui est, je ne sais pas, mondialisé, soit comme quelque chose qui est figé et mort. Donc on va chanter des chants qui parlent de bergères, alors qu'il n'y a plus beaucoup de bergères. Mais pour autant, il existe des chansons, il existe des textes, il existe plein de choses, que ce soit en occitan ou pas, que nous, on considère être non pas au bout d'un long fil qui ne s'est jamais coupé, mais qui relève de cette, ce qu'on peut appeler tradition ou culture. Et pourquoi souvent, quand vous nous posez des questions et on répond par les voyages, c'est que cette culture-là, ou cette identité, ou peu importe comment on le nomme, se révèle, ou en tout cas trouve à s'exprimer quand on va rencontrer les autres, justement. Et alors d'abord, c'est un pont formidable vers les autres, de dire plutôt, ben moi je suis d'ici, et ici voilà ce qui se fait, peu importe où est ici, en fait. Mais plutôt que de dire, on est un citoyen du monde aussi, du coup, creux qu'un citoyen et aussi vide que peut l'être le monde moderne. Et peut-être là-dessus, une des choses qui, en tout cas, personnellement, m'a fait complètement changer d'avis et m'a éclairé là-dessus, c'est un voyage que nous avons fait il y a quelques années maintenant, à Naples, avec un bon ami, qui a dit « je vais vous emmener dans une fête traditionnelle, napolitaine, sur une des montagnes autour de Naples ». Et en partant, il nous a dit « je vais vous apprendre la modestie ». C'est quelqu'un qui est plus âgé que nous. Et nous, on a pensé « oh, il veut nous apprendre la modestie, il veut nous montrer ce qu'est une vraie fête en Italie, etc. Il veut nous en mettre plein la vue, comment ?» On savait que c'était pas tout à fait ça, qu'il était plus intelligent que ça. Mais quand même, on se demandait à quoi correspondait cette phrase-là. Et nous sommes arrivés là-bas, alors je passe un peu sur les détails, mais c'était une fête relativement incroyable, en tout cas pour nous.
Décrivez un peu.
Alors, c'est en haut d'une colline. On fête la Madone de l'Avocata, ça s'appelle. Et donc, une fois l'an, les gens montent à pied, à cheval. Même, il y en avait en hélicoptère, ceux qui étaient malades, âgés ou très riches, j'imagine. Voilà. Des gens à cheval, c'était des jeunes hommes avec des tatouages. Bon, ils faisaient un peu mafiosi, d'ailleurs. C'était un peu original. D'autres avaient des ânes. On sentait que c'était peut-être un peu en dessous. Puis bon, nous, naturellement, nous étions à pied. Nous étions les seuls étrangers. Et heureusement, on était introduit par cet ami qui connaissait les gens. Et donc, les gens se réunissent. Certains vont à la messe dans la petite chapelle, d'autres pas. Et ce jour-là, il y a une trêve entre les clans, un peu. Donc, les gens n'ont pas le droit de se battre, de se tuer, des choses comme ça. Et donc, on sent quand même des tensions entre les groupes de gens. Mais voilà. Du coup, il y a un repas, comme un pique-nique, qui se passe. Alors, ça les amusait beaucoup, par exemple, de m'offrir un verre et que j'accepte parce que les femmes ne boivent pas là-bas. Voilà, des choses culturelles moins agréables, mais voilà. Et tout se passe dans une ambiance relativement étrange pour nous. Lorsque d'un coup, un homme, dont on ne sait pas pourquoi, lui, il n'a pas l'air plus important que les autres, voilà, décide que ça commence. Et les gens se mettent en cercle et jouent du tambourin, une espèce de tambourin, et jouent un rythme bien particulier qui est le rythme de cet endroit-là. Il ne se joue nulle part ailleurs, c'est le rythme de ce village, de cette fête. Les gens se mettent en cercle, il y en a qui chantent, quelque chose d'assez psalmodié, et des danseurs qui ont une danse qui imite un peu la lutte, et avec des castagnettes, des sortes de castagnettes. Et voilà, donc nous on a regardé ça avec des yeux éberlués. C'était la première fois d'ailleurs qu'une femme rentrait dans le cercle des joueurs de musique, et ça s'est bien passé. Et c'est vrai que pendant presque une heure, ils jouent et on est dans un état de transe, quoi. Dans cet endroit vraiment beau, particulier, avec cette ambiance-là. Les gens ne sont pas du tout, je ne sais pas comment dire, accoutrés de manière traditionnelle. Comme ils ont. On sent que, voilà, ils sont là avec des lunettes de soleil en train de faire cette danse. C'est quelque chose d'ancien, mais tout à fait, on sent actuel, vivant. Voilà, avec la présence de cette femme maintenant qui rentre, etc. Donc, nous, on était très épatés. Et quand les Italiens, là-bas, nous demandaient, surtout les gens âgés, « Alors, qu'est-ce qui se passe chez vous? Quelles sont vos fêtes ?» Et nous, on répondait, « Non, mais chez nous, ça n'existe pas, des choses comme ça. Enfin, chez nous, il y a le bal du samedi soir dans le village, il y a la disco mobile, et puis la musique de merde. Et puis voilà, ça n'existe plus. Ça existait avant, et on leur parlait d'avant. Avant, c'était bien, parce que... Bon, etc. » Et notre ami qui était avec nous, lui, il ne répondait pas ça. Lui disait, ben voilà, il y a, je sais pas, le carnaval de la Plaine à Marseille, il y a telle fête occitane. Enfin, il avait des choses à dire, quoi, sur les fêtes aujourd'hui, chez nous, dans le sud de la France. Et nous, on n'avait rien à dire. Et on a compris, à la fin du séjour, que ce qu'il avait voulu nous dire quand il nous avait dit « je vais vous apprendre la modestie », c'était ça, c'est-à-dire nous étions immodestes parce que on ne voyait pas ce qu'il y avait sous nos yeux de vivant. Et on disait c'est mort. Et ça, pour lui, c'était une posture absolument irrespectueuse. Et trouver quoi répondre à ces hommes-là, c'était pas seulement inventer quoi répondre, mais c'était faire vivre une réponse.
J'ai failli vous demander, Victor et Victoria Souza, est-ce que c'est possible aujourd'hui de faire renaître? Et en fait, là, vous venez de me répondre, il n'y a pas à faire renaître, il y a à voir ce qui existe.
Moi, j'ai un autre petit exemple concernant l'utilisation de l'Occitan ou de notre culture, en tout cas aujourd'hui, ici, donc sur le plateau de Saint-Victor et Melvieux, juste au-dessus de Sainte-Afrique, RTE, réseau de transport d'électricité, a eu la mauvaise idée de vouloir implanter un nouveau transformateur. Il existe déjà un transformateur à Melvieu et RTE veut en implanter un second pour pouvoir faire transiter encore plus d'électricité, pouvoir mettre encore plus de lignes haute tension, encore plus de lignes très haute tension.
Vous dites encore plus parce qu'il y a un transformateur, il y a aussi beaucoup de lignes haute tension et très haute tension qui traversent déjà ce territoire.
Tout à fait, il y a 14 lignes haute tension et très haute tension qui convergent vers le transformateur de Melvieu. Quand on se balade là-haut, on ne voit qu'elle. Mais bref, du coup, RTE veut implanter ce transformateur et aujourd'hui, les comités ZAD, les habitants de Saint-Victor et d'autres amis venus d'un peu partout en Aveyron se retrouvent sur ce plateau pour construire une petite cabane. Cette cabane, elle ne va pas s'appeler d'un nom français, elle va s'appeler d'un nom occitan. Elle va s'appeler Lamassade. Et Lamassade, c'est un nom qui veut dire « assemblée ». Mais qui permet justement d'avoir cette polysémie, de dire une cabane qui est assemblée, et assemblée au sens organisation politique qui nous caractérise, puisque toutes les décisions se prennent en se regroupant et en discutant jusqu'à trouver la meilleure. Et donc voilà, le simple fait qu'une cabane construite par autant de gens prenne un nom à consonance occitane, ce n'est pas du tout quelque chose de fortuit, c'est parce que quand on cherche le mot, c'est dans des imaginaires justement perdus qu'on va trouver celui où se cache l'invention.
La perte de la langue, la perte de la culture, ça serait aussi la perte de la capacité à se révolter ?
J'ai pas dit ça. Ce que je veux dire par là, c'est que cette langue perdue qui est l'occitan, perdue dans le sens où elle n'est plus pratiquée de manière populaire, n'est pas une langue à reconquérir au sens où il faudrait qu'il y ait de plus en plus de gens qui la parlent, mais une langue à reconquérir dans le sens où elle a la capacité d'inventer des mots, des expressions pour parler d'une vie neuve, qui n'est pas la vie d'aujourd'hui. Enfin, pour ça, le français nous convient tout à fait, je veux dire.
Cette vie neuve, vous pouvez en parler ?
Je ne sais pas, telle qu'on la rêve, en tout cas, elle a à voir avec les expériences de Notre-Dame-des-Landes, elle a à voir avec ce qui se passe dans le Val-Souza, avec le mouvement Notave, elle a à voir avec des gens qui, à un moment, se disent « ensemble, on est capable de peser suffisamment pour influer sur le cours des choses. Ensemble, ici, qu'on soit habitant du cru ou qu'on soit intéressé par l'avenir du pays en question, on va pouvoir se dire « voilà, on a une capacité de décision, on a une capacité d'action, on a autre chose que le petit bulletin dans l'urne tous les temps d'années. » Et ça, c'est déjà quelque chose d'assez magique quand on le voit. C'est déjà quelque chose de beau.
Oui, Victoria Souza.
Et peut-être là-dedans, quelque chose qui nous touche particulièrement dans le mouvement qui est en train de se construire autour des ZAD et de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est qu'il recoupe une réflexion qu'on avait un peu autour de ces questions d'histoire et de tradition, justement. C'est-à-dire que ce sont des mouvements qui, contrairement à ceux des années 70, n'ont pas de prétention historique, avec un grand H, ni de grand soir, ce qui peut-être parfois est dommage, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ne sont pas comme ça. C'est-à-dire qu'il ressemble à ce que peut être la tradition opposée à l'histoire. Quelque chose qui se transmet d'un être humain à un autre être humain, comme se transmet la tradition, c'est-à-dire une transmission humaine, plus ou moins orale, mais pas seulement, transmission de génération, quelque chose qui est fait par les gens d'en bas, enfin, toutes ces manières de... Oui, populaires. Toutes ces manières d'expression qui ne sont pas ceux de la grande histoire, des grands manifestes et des grands théoriciens, mais qui se construit dans une certaine modestie de la vie quotidienne et qui, pour autant, arrive à transformer le cours des choses.
En fait, oui, voilà, transformer le cours des choses, d'autant plus que ce qui me paraît très important dans cette transmission dont vous parlez, c'est que c'est une transmission qui accepte la transformation. C'est-à-dire, ce qui est transmis n'est pas quelque chose de tabou, figé, auquel il faudrait surtout pas toucher. La transmission, ça implique une transformation d'une personne à l'autre. La chose qui est donnée n'est pas celle qui est reçue.
Oui, c'est comme dans n'importe quel mythe, n'importe quelle légende. Ce serait complètement absurde de chercher l'original. Ça n'existe pas. Tout se transmet dans ces mouvements-là. Alors même s'il y a un manque, hein, bien sûr, et qu'il faut continuer. Là, on vient d'acheter un livre sur construire des cabanes en palette. Et aujourd'hui, on vient de construire des cabanes en palette. Et bien sûr, on a regardé ce livre. Et bien sûr, il y avait des gens, là, aujourd'hui, à Saint-Victor, qui disaient « Ah ben moi, j'ai construit ma maison en palette », etc. Bon, c'est juste un petit savoir-faire, mais c'est pas rien, en fait, puisque c'est quand même sous cette forme-là que ce mouvement, il prend cher. La cabane en palette, c'est symbolique, quoi.
C'est pas rien, et en même temps, même si j'ai envie de dire au quotidien, le mouvement, ce qu'on pourrait appeler un mouvement ZAD en France, ne doit pas regrouper plus de 200 ou 300 personnes. Ponctuellement, en revanche, ce qu'on a vu réapparaître, je pense notamment au la manifestation du 22 février à Nantes, ou la manifestation de réoccupation où a été construite la châtaigne à Notre-Dame-des-Landes, ponctuellement, on revoit des manifestations massives où quelque chose comme un peuple pourrait réapparaître. J'entends peuple au sens d'opposé à population, c'est-à-dire pas des gens qui sont ensemble comme des individus juxtaposés les uns aux autres, mais une masse qui n'est plus une foule, mais qui a un objectif, un devenir commun, qui arrive à se parler au sein d'elle-même. Et quand on ressent ces moments-là, et je veux dire pendant la lutte notave au Val-Souza, on a l'exemple du 3 juillet, de la Libre République de la Maddalena, les gens qui ont vécu ces moments-là, quand ils les racontent, le racontent toujours avec une étoile dans les yeux, en disant « mais après avoir vécu ça, je peux mourir, j'ai vu ce que je voulais voir ». Car c'est une expérience qui nous a été tellement enlevée, à la fois l'expérience de la communauté et du peuple qui surgit, que pouvoir le revivre au 21e siècle, c'est gage d'espoir.
Tu avais juste 18 ans, quand on t'a mis un béret bleu, quand on t'a dit rentre dedans tous tes cheveux, c'est pas exprès que t'étais débile, garde mobile. Et puis sont venus les manifs, les contre-sommets, les sit-ins. Tu as pu goûter de plus près la baramine. C'est bien pour ça que t'étais fébrile, garde mobile. Puis on t'a donné des galons, tu es venu en Aveyron, pour voir si les bâtons étaient plus ronds. C'est sûr que tu es inutile, garde mobile. Tu te crois fort en uniforme, t'as besoin de ça pour te croire un homme. Quand on n'en a pas une grosse, on fait les bosses. C'est sûr que tu n'es pas viril, garde mobile. Tu ressembles à une tortue ninja, t'es engoncé dans ta parka. Ta carapace ne cache pas bien ton embonpoint. T'as l'air plus con qu'un Playmobil, garde mobile.
Quand je vous écoute parler, l'un et l'autre, j'ai l'impression que vous décrivez des moments qui sont des moments très forts, que ce soit des moments de fête, des moments d'échange, des moments de lutte. Après, il y a le quotidien. Comment est-ce que ça perdure, ce dont vous êtes en train de parler, dans la banalité des jours ?
On pourrait dire qu'il n'y a pas de transe sans assaise, non ? C'est-à-dire que tout le petit travail qui peut ressembler des fois à du militantisme, qui peut consister tout bêtement à parler avec son voisin, à, je sais pas, aller planter un champ de patates, mais après être capable de raconter qu'est-ce que ça veut dire pour nous de planter ce champ de patates. Toutes ces petites choses-là, c'est ce qui à un moment condense une énergie qui le jour J ou le jour J' ou J2' peut exploser. Et c'est une conception normale, j'ai l'impression, de l'événement.
Victor et Victoria Souza, pourquoi avoir voulu une ZAD contre un projet d'éolienne pour beaucoup de monde, c'est un peu surprenant, cette idée-là. S'opposer au nucléaire, pourquoi pas ? S'opposer à des éoliennes, c'est déjà plus curieux. Victoria Souza ?
Effectivement, ça semble au premier abord curieux, réactionnaire même, pour pas mal de gens. Alors, déjà, bon, c'est vrai que beaucoup d'entre nous, on était choqués par l'aspect de ces choses-là, qui sont impressionnantes, l'aide et qui font du bruit, et qui font de la lumière la nuit, enfin plein de choses quand même qui sont déplaisantes. Et ensuite, on a découvert, en cherchant, en discutant avec des gens qui, depuis longtemps ici, luttent contre les implantations d'éoliennes, que ces éoliennes, c'était pas l'énergie verte prônée par les promoteurs ou par les politiciens, mais c'était plutôt une nouvelle manière de transférer l'argent public vers des fonds privés, comme, je pense, la plupart de ce que le capitalisme vert arrive à faire aujourd'hui. C'est-à-dire que les entreprises, ici par exemple, qui implantent des éoliennes, qui sait ? Alors nous avons un transporteur routier. Alors bien sûr, c'est une filiale qui fait les éoliennes. Mais enfin, quand on cherche un peu, on trouve le transporteur routier de matières chimiques. On trouve des entreprises qui appartiennent pour trois quarts au Simon Lafarge, etc. C'est-à-dire que derrière les petites entreprises qui ont une petite page Internet verte, on trouve les grands pollueurs habituels, Total, etc. Areva même, hein, fait des éoliennes, voilà. Promoteur d'éoliennes, bien sûr.
Donc, des repentis ?
Oui, voilà, c'est ça, sûrement, j'en doute pas. Donc, on s'est demandé pourquoi ces gens-là avaient intérêt à nous mettre des éoliennes partout. Et on a assez rapidement trouvé qu'il s'agissait d'une manière, un, de prendre de l'argent public, parce qu'aujourd'hui, les gens qui boursicotent ont très bien compris que où est la richesse aujourd'hui, elle est dans les États. Bon, mais voilà. Donc, au bas de notre facture d'électricité, c'est marqué, il y a la CSPG, je crois, c'est la contribution service public. Bon, en fait, c'est ça, c'est les énergies renouvelables. Donc, eux, il y a cette manne, bien sûr, tout n'aurait pas rendu, etc. Ils ont des subventions, et en plus, ils ont des crédits carbone, qui est une espèce de système relativement vicieux qui existe depuis le protocole de Kyoto. Parce qu'à Kyoto, ils se sont dit, ben zut, les capitalistes sont pas écolos, donc comment on va faire ? Eh ben, on va rendre l'écologie plus rentable. Enfin, on va faire en sorte que ce soit rentable pour eux d'être écolo. Donc, il y aura des bons points et puis des mauvais points. Donc, les entreprises qui polluent un petit peu trop, selon leurs normes à eux, bien sûr, qui sont complètement... Les entreprises, on va leur demander de polluer un petit peu moins. Et elles auront un bon point, un crédit carbone. Et puis, celles qui polluent trop, elles devront payer une amende. Donc, on en revient à nos grosses entreprises de transport chimique, là, ici. Évidemment, elles ont intérêt à gagner des crédits carbone par elles-mêmes plutôt que d'en acheter, parce qu'il est possible d'en acheter. Donc, en implantant des éoliennes, elles gagnent ces fameux crédits carbone qui vont leur permettre de faire rouler encore plus de camions avec encore plus de machins chimiques à l'intérieur.
Mais ça va faire quand même de la bonne énergie verte pour la région.
Mais non, bien sûr que non. Ça, évidemment, de toute façon, c'est pas de l'énergie pour la région.
Pourquoi c'est pas de l'énergie pour la région ?
Ce qu'il y a dans les fils, c'est dans les fils, hein, ça va chez tout le monde. C'est pas régional, d'autant plus que là, c'est une ligne THT qui va du Cotentin-Maine, donc c'est la même, hein, où il y a eu une lutte déjà là-bas, et qui va descendre ensuite en Espagne via les Pyrénées, etc. Et, alors ils veulent l'emmener jusqu'au Maroc, bon, etc. C'est comme une espèce d'autoroute de l'énergie. Le transformateur de Saint-Victor-et-Melvieu permettrait d'envoyer encore plus d'électricité dans cette formidable autoroute de l'énergie pour aller. Faire quoi cette électricité ? Bah, la vendre, évidemment, la vendre aux Espagnols, la vendre aux Portugais, et puis alors, formidable, la vendre aux Marocains, voire même, encore mieux, mettre des panneaux solaires dans le Sahara et puis en refaire revenir. Donc c'est tout un système complètement absurde de vente d'électricité, dont nous, on sera les dindons, hein, ça c'est évident. Et en plus, on a du mal à faire entendre ça, parce que soi-disant, c'est écologiste. Alors que ça fait vraiment partie du système dans lequel on vit, qui veut qu'en plus, nous soyons acteurs. C'est-à-dire qu'en plus, on a notre petit panneau solaire sur notre maison, chacun donne un petit peu d'énergie dans le système, on prend un petit peu, on est tous copains, tout ça. C'est de la cybernétique, quoi. C'est quelque chose d'affreux, et qui concerne absolument pas le local. Puisque, évidemment, en Aveyron, et en Midi-Pyrénées, on a des barrages suffisants si on voulait, par exemple, nous éclairer et faire tout ce qui se fait déjà avec l'électricité. Donc ce n'est pas pour ça, c'est pour faire plus d'électricité. Ils ne vont pas enlever le nucléaire pour autant. Donc on aura les deux, des centrales nucléaires et des éoliennes partout. Et ça, ce n'est pas possible.
Et alors dans ce cadre, pour vous, qu'est-ce que ça représente de faire une nouvelle ZAD ? Il y avait le fameux slogan « ZAD partout », c'est ça l'idée ? Victor Souza ?
Alors, ce slogan « ZAD partout », il y a deux manières de le prendre. Une manière qu'on pourrait dire au pied de la lettre, c'est-à-dire « il faut implanter des ZAD partout ». Et il y a une seconde manière de le prendre qui est « il faut faire vivre l'esprit de la ZAD, l'esprit de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, chez soi, partout où les gens habitent, partout où ils s'en sentent porteurs ».
Qu'est-ce que c'est l'esprit de la ZAD ?
On pourrait résumer ça en disant... Les gens qui habitent un territoire doivent décider par eux-mêmes, en s'organisant entre eux, de l'avenir de ce territoire. Moi, c'est comme ça que je le verrai. Et c'est comme ça qu'on l'a pris, je pense, au niveau du comité ZAD Aveyron. Enfin, on pourrait dire les comités ZAD Aveyron, qui ne sont pas des comités de soutien à la ZAD, mais qui ont dès le départ été des comités ZAD. C'est-à-dire que dès le départ, on s'est dit, on va s'imprégner de cet esprit qui est en train de naître là-bas à Notre-Dame et on va le faire vivre ici, en Aveyron. Il y a eu différentes péripéties, on a occupé des mairies, on a fait des péages gratuits sur le viaduc de Millau, on a cadenassé des commissariats et des gendarmeries.
Pourquoi ?
Ça, c'était une action en réaction à la mort de Rémi Fraisse. Et il y avait eu un appel qui avait circulé sur Internet appelant à les empêcher de nuire, au moins provisoirement, si on a les moyens que de cela. Et donc, nous, on a trouvé cet appel tout à fait pertinent et on s'est empressé de passer de l'appel aux actes, j'ai envie de dire. Donc, il y a eu différentes petites actions comme ça pendant 2 ans, depuis 2012. Et aujourd'hui, on en est arrivé à un point avec cette histoire de transformateur dont on parlait tout à l'heure et d'éoliennes, où on s'est dit c'est plus possible, on peut pas soutenir le Testé, soutenir Notre-Dame-des-Landes et laisser chez nous toutes les crêtes se faire ravager, des lignes THT et à haute tension partout dans le pays, un transformateur de 5 voire 10 hectares à Saint-Victor-et-Malvieux, c'est pas possible. Donc la décision a été prise pour le premier jour de l'hiver, le 21 décembre 2014, de commencer à bâtir sur les terres que RTE convoite. Ce sont des terres qui sont pour le moment encore privées, qui appartiennent à un agriculteur. Donc la massade, la cabane que nous sommes en train de construire, ressemble, si on veut, à ce que les notaves du Val Souza ont appelé les présidiaux. On pourrait traduire ça de plein de manières différentes, à la fois présence, fortin, position, attention à ce qui est en train de se passer. Et donc la massade que nous construisons est une sorte de présidio, donc, dans le sens où ce qui se passe à Saint-Victor n'est pas une occupation permanente, mais un lieu que l'on construit pour pouvoir se réunir, pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir faire autant des assemblées que des concours de belote ou des repas, pour qu'une lutte ait ses espaces propres.
Et pas seulement cette lutte, moi je dirais, mais ce qui nous a beaucoup frappé au Val de Souza, c'est à quel point cette lutte avait restructuré des liens sociaux très forts. Et il s'agissait pas seulement d'aller pour discuter de la prochaine action à mener, mais aussi d'apporter un gâteau, un café, de bavarder, de rencontrer du monde.
On pourrait dire que le territoire ne se ressent ou ne se vit jamais autant que quand on lutte pour lui. On pourrait dire qu'il n'y a pas de territoire en soi et que les territoires apparaissent à partir du moment où on s'engage à les défendre. Moi, ça me semble un petit peu réducteur. Je dirais qu'il existe des territoires, comme il existe ce dont on a parlé tout à l'heure à propos de l'Occitanie, à propos de l'Aveyron et ainsi de suite, mais que ces territoires prennent une forme différente, s'intensifient, rentrent en ébullition au moment où on commence à se battre pour eux. Et quand on se bat pour eux, là, ils explosent, quoi. Ça va être énorme.
Victoria Souza.
Il faut préciser quand même que le mouvement contre le transformateur n'existe pas depuis aujourd'hui, donc, depuis la construction de cette cabane, mais qu'il y a notamment une association qui s'appelle Plateau Survolté, qui lutte depuis 4 ans contre l'implantation de ce transformateur, qui a fait beaucoup de choses, qui a mis RTE au tribunal, etc., etc. Et on espère vraiment fort que tout ça va se rencontrer, c'est-à-dire que les gens qui viennent plutôt de Sainte-Afrique pour construire la cabane et tous les gens du village qui sont contre le transfo, on espère qu'on va tous ensemble lutter, quoi.
C'est une des caractéristiques des différentes luttes qui existent sur le territoire en France aujourd'hui, c'est qu'elles sont devenues extrêmement hétérogènes. C'est-à-dire que les gens qui composent les mouvements viennent d'horizons très différents, horizons politiques, horizons culturels, avec même des intentions différentes, ce qui d'ailleurs crée énormément de tensions aussi. Mais en même temps, c'est peut-être une richesse. Victor Souza.
J'ai l'impression que ce qui se joue, c'est une véritable rencontre entre, on pourrait dire, une jeunesse révoltée par quelque chose de bien plus large que les projets nuisibles et des populations souvent plus âgées qui sont impactées par des projets et qui d'un seul coup se retrouvent face à ce sentiment d'injustice, cette envie de se révolter, ainsi de suite. Ensuite, la particularité dans ce qui est en train de se jouer à Saint-Victor, ici en Aveyron, c'est que la jeunesse révoltée qui se joint aux habitants de Saint-Victor, et dont certains jeunes sont carrément habitants de Saint-Victor eux aussi, mais la majeure partie de cette jeunesse révoltée est avéronaise. C'est-à-dire qu'il y a déjà un terreau ici de gens qui, depuis des années, et depuis le mouvement de soutien à Notre-Dame-des-Landes et ainsi de suite, se posent la question de qu'est-ce que ça veut dire habiter un territoire. Et on espère que cette conjonction particulière va justement nous permettre d'enrichir une culture commune et une manière d'habiter ici pour des années et des années à venir.
Donc c'est une invitation pour les non-avéronais à ne pas venir ?
Pas du tout, je pointais simplement une caractéristique qui, contrairement à la ZAD du Testé par exemple, où relativement peu de personnes de Gaillac ont été présentes au début, ici on a un fond solide de gens opposés à ce transformateur et on espère bien que d'autres personnes vont nous rejoindre et on est tout à fait ouvert à les recevoir et à partager cette lutte avec eux, bien sûr.
Vous avez commencé l'entretien en parlant de votre proximité avec le Larzac. Vous avez longuement évoqué votre intérêt pour la tradition, pour ce qui vous a été transmis, la langue, la culture. Est-ce que vous avez le sentiment que le Larzac aussi, la lutte du Larzac, ça a été un héritage, quelque chose qui vous a été transmis, ou est-ce que, au contraire, vous vous sentez très loin de ça, puisque vous avez également manifester certaines distances par rapport aux luttes politiques qui avaient précédé les vôtres.
Le Larzac comme héritage, bien sûr. Hein. On est en Aveyron, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Il y a d'ailleurs des similitudes assez notoires, puisqu'il y a presque 40 ans de ça, si je me trompe, commençait ou en tout cas se poursuivait la construction de la bergerie de la Blaquière, donc, qui était aussi la même méthode de lutte, c'est-à-dire on construit sur un territoire pour marquer que c'est nous qui allons y mettre les décisions et que c'est notre manière de vivre qui va résister et qui va rester là. Proximité avec le Larzac aussi pour les années d'antimondialisation, avec les rassemblements de Millau en 2000 et du Larzac en 2003, qui ont formé toute une génération politique, on pourrait dire, dans le sud d'Aveyron et plus largement. Et distance aussi avec le Larzac depuis quelques années maintenant, puisque l'anecdote que je vous contais tout à l'heure, à savoir la visite du ministre Le Foll, lorsque nous avons envahi la chaussée pour l'empêcher de quitter l'endroit où il était rentré pour les festivités, lorsque nous avons investi cette chaussée en montrant notre opposition au projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, nous avions face à nous des gendarmes, mais également deux figures majeures de la lutte du Larzac. Je ne sais pas s'il faut les citer, mais peu importe, deux figures majeures qui venaient faire le coup de poing avec les gendarmes pour nous empêcher de passer. Et qui déclaraient ensuite, dans les journaux locaux, que les sauvages qui soutiennent Notre-Dame-des-Landes doivent être passés au Karcher, ou je ne sais plus quelle expression odieuse comme ça. Bref, on a une distance claire qui s'est créée avec les historiques de cette lutte, qui occupent aujourd'hui des places politiques, qui ne sont plus du même bord, malheureusement. Mais cette lutte du Larzac est également une jeune génération qui a réussi, tant bien que mal, contre parfois la SCTL, à s'y implanter. Cette jeune génération et cet héritage sont aujourd'hui avec nous, y compris dans le combat à Saint-Victor et Melvieu.
Donc ça serait plus une incompréhension entre générations?
Non, c'est une divergence politique. C'est-à-dire que on voit bien dans la situation du Larzac que des agriculteurs qui, à un moment, ont été pris dans une lutte, se sont retrouvés ensemble, ont ouvert leurs portes, leurs fenêtres à d'autres réalités, ont pu adopter des positions en phase avec leur époque, et qu'aujourd'hui, une fois la lutte terminée, une fois un solide héritage derrière soi en tant qu'ancien de la lutte, on retombe dans les travers du chacun chez soi, du chacun pour soi, et ainsi de suite.
Victoria Souza ?
Ben peut-être pour un peu revenir sur ce dont on parlait tout à l'heure, d'une certaine manière, il y a comme aujourd'hui un figement de l'histoire du Larzac. Il faudrait la prendre comme un grand tout et surtout ne pas y toucher. Elle est un petit peu sacrée, quoi, en quelque sorte. Là où je dis que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est un petit peu la même chose qu'entre l'histoire avec un grand H et ce que nous on aime appeler tradition. C'est que justement la tradition, elle se modèle, elle se module et elle est en constante évolution. On peut la transformer, on peut mentir également. C'est-à-dire on peut raconter des fables, on dit des menteries dans le coin. Mais on tient quand même aussi à une certaine idée de la vérité à l'intérieur de ces fables-là. Et là, on a quelque chose de figé, une histoire qui est dans des films, dans des livres, dans la bouche de gens qui sont reconnus, connus, etc. Et nous, on a envie de s'approprier ça à notre manière, c'est-à-dire la manière qui correspond à autant d'aujourd'hui et à ce que nous, on aime bien. Par exemple, on ne veut pas faire l'impasse sur ce qui s'est passé au début de la lutte, c'est-à-dire les jeunes maoïstes qui arrivent et les manifestations violentes également à Millau. Il n'y a pas toujours eu la communauté de l'Arche et l'Anza del Vasto. Ça n'a pas toujours été comme ça. Rien n'est jamais si unilatéral. Et nous, on s'intéresse évidemment à toute la lutte, mais on n'a pas envie de se réclamer d'un certain héritage. Et je pense que même au-delà de ça, c'est pas notre devoir, ce serait un peu fort, mais quelque part, y a un peu de ça, de se dire, oui, on est héritier de ça, parce qu'on vit juste à côté, parce que ça nous a inspiré, mais on doit aussi se renseigner et parler de ces choses-là, de ces jeunes qui sont venus, qui sont peut-être aujourd'hui morts ou bien qui ont complètement changé leur vie. Les absents et les morts, ils n'ont pas des noix dans les poches et puis il y a des arbres qui poussent, quoi. Il faut que nous, on se charge aujourd'hui de savoir de quoi on veut être les héritiers. Mais c'est pas la famille, quoi. On va pas hériter de tout et accepter la globalité comme on voudrait qu'on nous la présentait, quoi.
Voilà.
Il y a 10 flics à Saint-Afrique et on va s'en débarrasser. Il y a 10 flics à Saint-Afrique et on va s'en débarrasser. Hé, hey, oh, c'est rigolo, sous les bombes, sous les bombes. Hé, hey, oh, c'est rigolo, sous les bombes lacrymo. Il y a 7 flics à Saint-Afrique et on va s'en débarrasser. Il y a 7 flics à Saint-Afrique et on va s'en débarrasser. Hey, oh, c'est rigolo, sous les bombes, hey, oh, c'est rigolo, sous les bombes lacrymo. Y'a plus qu'un flic à Saint-Afrique et on va s'en débarrasser. Y'a plus qu'un flic à Saint-Afrique et on va s'en débarrasser. Hey, oh, c'est rigolo, sous les bombes, hey, oh, c'est rigolo, sous les bombes lacrymo. Y'a plus de flic à Saint-Afrique, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on se fait chier. Y'a plus de flic à Saint-Afrique, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on se fait chier. Hey, oh.
Voilà, cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la télécharger ou la réécouter sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez notre revue de web hebdomadaire et des liens vers cette association de l'Aveyron. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposée par Ruth Stegassi, préparation, documentation, Laurence Genepin, Anne Gouzon, mixage, Pierre Monteil, réalisation, Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.